Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur un dossier qui a défrayé la chronique en 2010, le scandale du Mediator. Malgré la dramatique affaire du sang contaminé dans les années 90, de nombreux observateurs français plaçaient notre pays parmi les plus avancés en matière de sécurité sanitaire et en particulier de risques médicamenteux. En 2008, une étude de l'UFC Que Choisir avançait même que 82% des Français vouaient une confiance absolue dans les médicaments prescrits par leurs médecins ou dans ceux que leur recommandent leurs pharmaciens. Dans cette société de la sérénité thérapeutique, personne, à part certains professionnels éclairés, n'imaginait que le spectre brutal de la contamination pharmacologique allait une nouvelle fois revenir hanter l'actualité. Lorsqu'elle éclate, l'affaire du Mediator laisse très vite peu de doutes sur sa nature. Comme d'autres, elle traduit la voracité des laboratoires pharmaceutiques qui parfois s'assoient sur la sécurité sanitaire. Elle est aussi le symptôme d'un système du médicament à la dérive. Très vite, de révélation en révélation, la vérité se dessine. La faute est partagée entre le pharmacien fabricant, les laboratoires servis en l'occurrence, et l'État avec l'AFSAPS, le gendarme du médicament. Le premier parce qu'il est accusé d'avoir menti sur la nature et la destination de son produit. Le second parce qu'il a accepté d'en maintenir la commercialisation alors que le mensonge était aisément démontrable. Les pouvoirs publics savaient le Mediator dangereux. Au final, un drame économique, politique, mais surtout humain. Nos invités aujourd'hui pour revenir avec nous sur cette affaire, elles sont deux. La journaliste Clotilde Cadu, spécialiste des questions de santé pour l'hebdomadaire Marianne. Et puis en duplex, dans les studios de France Bleu à Brest, Irène Frachon, pneumologue. Elle est la figure de proue du combat contre le Mediator. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo, qui a recueilli le témoignage de Gérard, une victime du Mediator. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Clément Vuillet.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
La parole est à Monsieur Pascal Terrasse.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre du Budget des Comptes Publics et de la Réforme de l'État, mes chers collègues.
Paris, Assemblée Nationale, nous sommes le mardi 16 novembre 2010. Dans la salle des quatre colonnes, les aiguilles de la Grande Horloge annoncent 15 heures. Seuls ou par petits groupes, les députés rejoignent leur siège dans l'hémicycle pour le début de la séance de questions au gouvernement. C'est le moment où il faut être là, parce que les caméras de télé sont présentes. Excellent pour le député obscur qui veut exister, pour le député star qui veut faire du buzz. Vu des balcons, la scène semble suivre un rituel immuable. Sauf qu'aujourd'hui, l'ambiance est un peu particulière. Certes, c'est le baptême du feu pour le nouveau gouvernement de François Fillon, remanié deux jours plus tôt. On croise ainsi Alain Juppé, nouveau ministre de la Défense, ou Michel Alliot-Marie, qui une fois de plus passe d'un ministère régalien à un autre, cette fois de l'intérieur au Quai d'Orsay. Et puis, il y a ceux qui sont toujours là, comme Christine Lagarde, à l'économie et aux finances, ou encore Xavier Bertrand, dont le ministère du Travail et de l'Emploi s'étoffe et qui désormais englobe la santé. Et c'est la santé, justement, qui rend cette séance de questions au gouvernement si singulière. D'ordinaire sensible, le sujet est plus que jamais au cœur de l'actualité. Depuis quelques semaines, en effet, la polémique enfle depuis les révélations du Figaro et de sa journaliste Anne Jouan concernant les résultats d'une étude confidentielle de la Caisse nationale d'assurance maladie dont le but était d'évaluer les risques imputables à un médicament en particulier, le Mediator, un antidiabétique délivré uniquement sur ordonnance, largement utilisé comme coupe-faim et déjà retiré du marché un an plus tôt, en novembre 2009. Cité par la journaliste, le résultat de l'étude de la CNAM est alarmant. Depuis sa mise sur le marché, le Mediator serait responsable de 500 à 1000 décès en France. Et on estime à plusieurs milliers le nombre de personnes hospitalisées. Plus préoccupant encore, dans la suite de l'article, on peut lire le témoignage anonyme d'un expert du milieu de la pharmacovigilance pour qui, je le cite, « la situation est grave, cette histoire du Mediator va mal se terminer. Le jour où les chiffres vont sortir, il va y avoir un scandale terrible ». Cette étude de la CNAM, le nouveau ministre en charge de la Santé, Xavier Bertrand, en a l'original sur son bureau. Pleinement conscient de l'aspect explosif du dossier, il sait qu'il doit adopter de nouvelles stratégies et que celle-ci doit trancher avec celle de sa prédécesseure, Roselyne Bachelot. Oui, communiquer immédiatement sur l'affaire, donner des gages de transparence, et enfin se démarquer du laboratoire Servier, le fabricant du Mediator, accusé entre les lignes d'avoir fait passer ses intérêts financiers avant les intérêts de ses patients. À quelques mois de la prochaine présidentielle, un scandale sanitaire serait très préjudiciable pour la majorité. Le précédent de l'affaire du sang contaminé dans les années 90 est encore dans toutes les mémoires. Elle a fait suffisamment de dégâts chez les socialistes, et notamment pour Laurent Fabius, à qui elle a probablement barré la route de l'Élysée pour que la droite en tire elle aussi les leçons. Ainsi, lorsque ce mardi 16 novembre 2010, Xavier Bertrand arrive à l'Assemblée, son visage traduit toute la gravité de la situation, car il sait qu'il s'agit là d'une affaire sensible, et que quelques rangs plus haut sur les bancs de l'Assemblée et de l'opposition, de nombreux députés l'attendent au tournant. Parmi eux, le socialiste Gérard Bapt, ancien cardiologue, devenu depuis quelques mois une des figures de proue dans ce dossier. Et il le dit très clairement. Oui, ce dossier est imputable à l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette institution qui, en France, autorise, surveille et, le cas échéant, retire des médicaments de la vente. En bas, dans l'hémicycle, en cette froide après-midi de novembre, les minutes passent et les questions aux différents ministres s'enchaînent. Xavier Bertrand répond à ceux qui l'interrogent sur ses prochaines mesures pour l'emploi. Personne n'aborde, pour le moment, la question du Mediator, jusqu'à cette prise de parole du député UMP Jacques Domergue. Chirurgien de formation, il demande au ministre d'un ton solennel quelle va être la réaction de l'État après les révélations du Figaro sur ce médicament.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jacques Domergue, vous connaissez bien le secteur de la santé et vous savez que sur un sujet comme celui-ci, la priorité, ce sont les patients. Et le message que nous devons adresser à l'ensemble des patients qui se sont vus prescrire le Mediator, c'est de consulter leur médecin généraliste et plus particulièrement ceux qui ont utilisé du Mediator pendant au moins 3 mois pendant les 4 dernières années. C'est un enjeu de santé publique. Je veux encore et encore renforcer la sécurité sanitaire.
Le ministre a-t-il lâché son micro que le bureau de l'AFP, situé en haut de l'hémicycle, envoie une dépêche ainsi libellée. Xavier Bertrand saisit l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, pour mener une enquête sur les responsabilités des autorités de santé dans cette affaire du Mediator. Les déclarations du ministre donnent de l'ampleur au dossier qui devient affaire d'État. Xavier Bertrand s'invite partout et fait les gros titres des journaux avec ce chiffre qui fait froid dans le dos, 500 morts. Oui, 500 personnes qui auraient perdu la vie pour avoir fait confiance à leur médecin qui leur avait prescrit un médicament autorisé par la loi, en l'occurrence le Mediator. Dans la presse, les témoignages de victimes jusque-là discrètes et anonymes se multiplient. Toutes ces personnes décident de briser la loi du silence car si elles ne sont pas toutes mortes du Mediator, leur vie est quand même bouleversée. L'une d'entre elles, Patricia, témoigne sur France Inter.
Après la prise du Mediator, j'étais très très fatiguée. Je n'arrivais pas à tenir. J'étais vraiment à bout. C'est pour ça que j'ai demandé à un moment donné à mon médecin de faire des examens. Et on m'a fait une échographie cardiaque. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que mes valves étaient très très abîmées. J'ai été opérée en août 2004. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à faire. Les ménages, c'est très dur, faire du jardinage. Je voudrais que le laboratoire reconnaisse ce qu'il nous a fait et qu'il continue à nous faire, parce que c'est toute la vie qu'on va subir.
La maladie dont souffre Patricia est une valvulopathie, l'une des deux très graves et mortelles pathologies dont souffrent les victimes de Mediator. Face à ce drame humain, les questions fusent et les critiques se portent rapidement sur l'entreprise qui fabrique le Mediator, le laboratoire Servier, numéro 2 de l'industrie du médicament en France, accusé d'avoir laissé sur le marché un produit qui pouvait être dangereux. Pointé du doigt aussi l'autorité de santé en charge de la sécurité des médicaments, l'AFSAPS, que certains accusent de négligence. Acculé par la presse, son directeur Jean Marimbert annonce que les 300 000 personnes qui prenaient du Mediator au moment de son retrait des pharmacies, en novembre 2009, vont être contactées et qu'un examen de santé va leur être proposé. Et il affirme que dans toute cette affaire, le gendarme français du médicament n'a pas failli à ses responsabilités. Un plaidoyer très vite remis en cause par de nombreux médecins qui rappellent, à juste titre, que le cas du Mediator n'était pas inconnu des autorités de santé. Parmi elles, il y a le docteur Vincent Renard, président du Collège national des généralistes enseignants. Vous allez l'entendre, son constat sur le Mediator est sans ambiguïté.
Les avis des commissions d'experts étaient clairs. Ce médicament n'avait pas de place en termes de rapport coût-efficacité. Hein. C'était un mauvais médicament, ça s'est connu de longue date.
Un mauvais médicament, voilà comment certains médecins considéraient le Mediator depuis de nombreuses années. Alors, s'il était à la fois cher et inefficace, pourquoi ne pas l'avoir retiré du marché plus tôt? Et pourquoi continuer à le prescrire? À ces questions, ce sont les journalistes du quotidien Le Monde qui apportent des réponses. En remontant le parcours du Mediator depuis son autorisation de mise sur le marché en 1976, il découvre qu'il y a eu bien avant 2009 de nombreuses alertes à son sujet, mais que toutes sont restées lettres mortes. La première d'entre elles remonte à 1998, lorsque trois éminents professeurs de médecine avertissent l'agence des médicaments des risques du Mediator utilisé comme coupe-faim. La seconde remonte à 1999, lorsque la commission de transparence des médicaments le juge inefficace contre le diabète et recommande de ne plus le faire rembourser par l'assurance maladie. À la même période, le Mediator est retiré de la vente par les laboratoires Servier eux-mêmes, en Suisse, puis en Espagne et en Italie, en 2003, après qu'on a découvert plusieurs cas de valvulopathie. Alors, pourquoi la France ne réagit-elle pas face à ce faisceau de présomption, alors qu'une troisième alerte arrive en 2006, cette fois de la part de la Haute Autorité de Santé, qui souligne les dangers de ce médicament et qui remet en cause son remboursement à 65% par la Sécu? Or, rien ne se passe. Un constat qui, pour le docteur Irène Frachon, dont nous reviendrons plus tard sur le rôle clé de lanceur d'alerte dans cette affaire, décrédibilise totalement la capacité de contrôle et d'indépendance de notre autorité de santé.
Le nombre de fois où ce sujet est revenu sur le tapis, c'est un vrai mistigri, hein, ce Mediator, avec des décisions qui, à un moment donné, laissent penser que le Mediator va être retiré, et puis cette décision est contredite. Que s'est-il passé à ce moment-là? Et quelle influence, quelle pression, quel lobbying a permis que, autant de fois, devant des signaux qui apparaissent aussi évidents de dangerosité pour un médicament inutile, je pensais que ça avait échappé aux gens, et quand ils allaient le comprendre, instantanément, les bonnes décisions seraient prises. Et en fait, aujourd'hui, il s'avère que la totalité de ces données scientifiques assez simples étaient très simples à comprendre. Un poison qui ne sert à rien était déjà dans les mains de l'AFSAPS depuis plus de 10 ans.
Oui, 10 ans et au total 33 années de commercialisation du Mediator qui ont permis au laboratoire Servier d'écouler entre 1976 et 2009, date de son retrait, plus de 145 millions de boîtes. À 5 euros l'unité, cela représente un chiffre d'affaires de plus de 720 millions d'euros. Une somme qui pourrait expliquer à elle seule pourquoi du côté du laboratoire Servier, personne ne voulait que le médicament ne soit retiré du marché, bien sûr. Mais au-delà de la responsabilité du laboratoire, la question qui se retrouve au cœur du débat public porte sur l'éventuelle aide ou complaisance dont aurait pu bénéficier le Mediator de la part des autorités de santé et en particulier du gendarme du médicament, l'AFSAPS. Cette question, répétons-le, centrale, elle est posée sur France Inter à Xavier Bertrand le matin du 6 décembre 2010.
France Inter.
À un moment,
si vous voulez que je vous explique, je vais essayer de le faire.
On soupçonne les pouvoirs publics et les autorités sanitaires de complaisance à l'égard du laboratoire Servier.
Non, attendez, monsieur.
Deuxième laboratoire pharmaceutique de France.
Non, mais attendez, là.
Il y a une décision qui porte sur le remboursement de ce médicament. Donc, je vous pose cette question. Pourquoi, selon quels critères vous décidez le maintien de son remboursement à 65% alors qu'il y a une autorité de santé qui vous dit que ça n'a aucun intérêt médical?
Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire?
Ben, absolument, oui.
Ouais, complaisance?
Oui, complaisance. Complaisance.
Vous plaisantez ou quoi?
Non, je ne plaisante pas. Les experts de l'AFSAP, de l'Agence de l'Autorité de Santé, sont liés par des rémunérations au laboratoire pharmaceutique. C'est dans toute la presse, hein. J'invente pas les termes, Xavier Bertrand.
Monsieur Cohen.
Oui.
Le 15 janvier, le lendemain du rapport, qui sera présenté par l'IGAS. Invitez-moi et on commentera ce qu'il y a dedans. Mmh. D'accord ?
Au cours de cette interview, le ministre de la Santé met lui-même le doigt sur l'un des aspects les plus sensibles de cette affaire. Xavier Bertrand déclare, je le cite, que le Mediator n'était pas un coupe fin, qu'il avait obtenu son autorisation de mise sur le marché pour des gens souffrant de diabète. La réalité, ajoute-t-il, c'est qu'il a été bien trop souvent prescrit par les médecins comme coupe fin, précisément. C'est donc, comme on va le voir, la nature et la prescription du Mediator qui sont au cœur du scandale. Le 3 janvier 2011, c'est le journal Libération qui jette de l'huile sur le feu. En une de son édition de la rentrée, le quotidien cite des propos que Jacques Servier, père fondateur et actuel président des laboratoires qui portent son nom, aurait tenus quelques jours plus tôt devant ses employés lors de la cérémonie des vœux pour la nouvelle année. Il aurait déclaré « Le Mediator, ce n'est que trois morts ». Reprise partout dans la presse, cette phrase crée un profond malaise. Pour l'avocat de plusieurs des victimes, Charles-Joseph Houdin, c'est l'expression de tout le cynisme dont sont capables les laboratoires Servier, qualifiés par lui d'officine pharmaceutique pour qui la vie humaine n'est rien à côté du profit qu'elle peut en tirer. C'est ainsi qu'a posteriori, la directrice des affaires extérieures du laboratoire, Lucie Vincent, interrogée par Benoît Duquesne dans le magazine Complément d'enquête, ira jusqu'à remettre en doute la responsabilité des laboratoires Servier dans le scandale du Mediator.
Sur ce fameux Mediator, puisqu'il s'agit de ça, est-ce que, à votre avis, ce médicament a été à l'origine de mort ? Est-ce qu'il a causé la mort des gens ?
À l'heure actuelle, ce que nous pouvons dire sur le Mediator, c'est qu'il y a eu un effet secondaire grave, mais extrêmement rare. Et c'est ça qui est au cœur de tout le problème Mediator aujourd'hui. On se rend compte, grâce à une étude Servier, qu'il y a un effet secondaire, mais le produit est resté sur le marché pendant 35 ans. Comment est-ce possible ?
L'étude, elle arrive tardivement.
Elle arrive en 2009.
Elle met en évidence, votre étude, qui a un effet secondaire, qui serait rarissime, qui aurait provoqué des morts. Combien ?
Un effet secondaire rarissime et dont la gravité, aujourd'hui, n'est pas absolument connue. Et je suis dans le grand espoir encore de pouvoir, à la fin de toutes les données qui nous arrivent, de pouvoir rassurer les patients, justement.
C'est pas moi, c'est lui. Servier rejette la responsabilité du drame sur la FSAPS qui, elle, accuse Servier. Courage, fuyons. Alors tout le monde attend avec impatience le rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, promis par Xavier Bertrand et qui doit pointer les responsabilités exactes dans cette affaire. C'est le 15 janvier 2011, deux mois après le début du scandale, lors d'une grande conférence de presse au ministère de la Santé, que le rapport de l'IGAS est rendu public. Face à une nuée de journalistes, les trois rapporteurs posent sur la table d'épais dossiers de plus de 300 pages, représentant 6 semaines d'enquête sur le Mediator, les laboratoires Servier et les autorités de santé. Premier à s'exprimer au nom de l'IGAS, le docteur Aquilino Morel, qui pointe d'emblée de graves manquements. Ce même médecin, qui selon le journal Mediapart, aurait été simultanément à ses fonctions à l'IGAS, un collaborateur du laboratoire pharmaceutique danois Lundbeck. Mais à cette époque, on ne le savait pas.
Le déroulement des événements relatés est très largement lié au comportement et à la stratégie des laboratoires Servier qui, pendant 35 ans, sont intervenus sans relâche auprès des acteurs de la chaîne du médicament pour pouvoir poursuivre la commercialisation du Mediator pour en obtenir la reconnaissance en qualité de médicament antidiabétique. Pour reprendre une expression revenue à plusieurs reprises dans les témoignages recueillis par la mission, cette firme, elle les aurait roulés dans la farine, surchargés de travail, empêtrés dans des procédures juridiques lourdes et complexes, bridés par la crainte des contentieux avec les firmes. L'AFSAP s'est apparu à la mission comme une structure lourde, lente, peu réactive, figée dans une sorte de bureaucratie sanitaire. La mission tient à souligner que le système de notification des cas par les professionnels de santé aurait pu permettre le retrait du Mediator au moins depuis 1999.
La conclusion des experts de l'IGAS est sans appel. Elle dit « Le dispositif de pharmacovigilance a failli à sa mission, qui est d'identifier et d'instruire les cas d'effets indésirables, graves, liés à l'usage d'un médicament, en l'occurrence le Mediator. » Mais il apparaît clairement que le laboratoire Servier a sciemment tenté de tromper le système de surveillance et de contrôle. Dans cette affaire, il y a donc deux responsables pour un seul et même scandale. De son côté, Xavier Bertrand annonce qu'un fonds d'indemnisation va être mis en place pour aider les victimes. En urgence, il annonce aussi une série de mesures pour réformer le système de santé. D'une part, une transparence totale en cas de conflit d'intérêts entre médecins et laboratoires, et d'autre part, une révision du financement de l'Agence du médicament par l'État et non plus par l'industrie pharmaceutique.
Notre responsabilité aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de rebâtir un nouveau système du médicament, un nouveau système de sécurité sanitaire, avec un objectif, qu'il n'y ait pas demain de nouveaux médiators.
Alors, comment en est-on arrivé à un tel scandale? Comment le médiator a-t-il pu causer la mort de si nombreuses personnes? Quel est le rôle exact des laboratoires Servier et des autorités de santé? Et puis, qui a véritablement œuvré pour mettre fin à la commercialisation du médiator?
My soul is a weary and beaten down from all my misery, yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery, yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me, they got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me?
Commune de Gidy, banlieue d'Orléans, nous sommes en février 1974. C'est ici, au milieu des champs, que se trouvent les ateliers de recherche du deuxième groupe pharmaceutique français, les laboratoires Servier. Fleurons de l'industrie pharmacologique, ils exportent leurs médicaments partout dans le monde. Il se dit d'ailleurs que leur directeur, Jacques Servier, est un proche de très nombreux responsables politiques. Toujours est-il que c'est précisément ici, en cet hiver 74, dans les laboratoires de Gidy, que les chercheurs de Servier mettent au point une nouvelle molécule, le benfluorex. Comme le souligne le suffixe accroché à son nom, orex, celui-ci appartient à la famille des anorexigènes, autrement dit, des coupe-faim. Autre information à retenir sur cette molécule, elle est elle-même un dérivé de la norphenfluramine, un nom qui ne doit pas vous dire grand-chose, sauf si on précise que c'est une molécule très proche de l'amphétamine, oui. Amphétamine, une substance chimique considérée comme un produit stupéfiant et qui défraye souvent la chronique, car elle aussi elle est une substance dopante pour les sportifs. Le médiator dans tout cela, Eh bien, elle est là, sous vos yeux, car le benfluorex, c'est le principe actif du dit médiator. Pour résumer, ce médicament n'est autre qu'un parent chimique de l'amphétamine et sa substance active le prédestine à devenir un coupe-faim. Problème pour les laboratoires Servier, ils possèdent déjà une batterie de coupe-faim très rentable, dont le célèbre Pondéral. Alors, que faire de cette nouvelle molécule? Jacques Servier va donc demander une autorisation de mise sur le marché, non pas dans la catégorie des coupe-faim, mais dans la catégorie des médicaments antidiabétiques. Autorisation qu'il va obtenir sans trop de difficultés, et le tour est joué. C'est ainsi qu'en 1976, la boîte blanche et bleue du Mediator fait son apparition dans les pharmacies de l'Hexagone. Au même moment, le très libéral Jacques Servier milite à la télé pour que l'État ne vienne pas mettre ses mains dans les affaires du médicament.
Si vous voulez mon opinion d'une façon générale, c'est qu'il faut toujours regretter des mesures contre le médicament français. Demi-mesure ou mesure complète, elle s'ajoute à 40 ans d'incompréhension dans notre pays. Et pourtant, le médicament français est le deuxième du monde pour la découverte après les États-Unis, le troisième du monde pour l'exportation avant les États-Unis et le Japon. Le médicament français est quelque chose de précieux. Il ne faut pas trop y toucher.
Alors que le Mediator poursuit son chemin année après année sans faire parler de lui, une révolution est en marche dans le monde de la pharmacologie. En 1997, les anorexigènes ou coupe-faim, médicaments très lucratifs pour les labos, sont interdits. Ils seraient dangereux pour le cœur et les poumons. Chez Servier, la success story de l'isoméride et du pondéral prennent donc brutalement fin. Mais le médiateur, et malgré des caractéristiques et un principe actif très proche de l'isoméride, passe entre les mailles du filet, sauvé par son positionnement sur le diabète. Ce qui permet au médiateur de surcroît de jouir d'une très belle cote de popularité chez les médecins, au point que ceux-ci en détournent l'usage pour le prescrire à des non-diabétiques. C'est le système de lobbying mis en place par Servier qui se dissimule derrière chaque comprimé prescrit. En effet, comme l'explique le docteur Philippe Evin, Jacques Servier a infiltré depuis des années toute la chaîne du médicament et en particulier les autorités de contrôle, ce qui lui permet de jouir d'une certaine impunité. On ne parle pas du lobby pharmaceutique pour rien.
C'est un homme d'influence très tôt dans la médecine. Très tôt, je veux dire que il a visé les étudiants pour déjà acclimater les relations entre le labo Servier d'ailleurs, et les étudiants. Et puis après, quand il prépare les concours difficiles, comme l'internat, de leur apporter des supports qui lui coûtent 4 sous, mais qui sont appréciés, une belle salle pour se réunir, des projecteurs qui marchent, la société de pharmacologie. La pharmacologie, c'est l'étude théorique des médicaments. La société de pharmacologie, le secrétaire général, c'est le directeur scientifique de Servier. Non seulement il soutient, mais il l'infiltre, il est dedans.
Chez Servier, comme ailleurs dans l'industrie pharmacologique, le lobbying s'exerce aussi par les visiteurs médicaux, ces VRP, qui viennent vendre les médicaments aux médecins et aux hôpitaux et qui, selon les témoignages, ne vont cesser de vanter l'effet amaigrissant du Mediator et inciter les médecins à le prescrire non plus pour le diabète, mais directement comme coupe-faim. Malgré l'inertie des autorités sanitaires, année après année, autour de son cas, le Mediator intrigue la communauté scientifique et en particulier les publications médicales indépendantes. Dès les années 80, la revue Pratique insiste sur la particularité de sa composition chimique qui, selon elle, est contraire à sa classification comme médicament contre le diabète. En 1997, c'est la revue française indépendante Prescrire qui lance un premier signal d'alerte. Dans un article, des médecins s'insurgent contre le rôle dangereux du benfluorex, la substance active du Mediator, rappelant son origine puisée dans la catégorie amphétamine. Pour eux, le Mediator n'est qu'un jumeau de l'isoméride, médicament anorexigène interdit en 97. Dans d'autres articles, parus quelques années après, Prescrire s'alarme de l'effet placebo du Mediator pour les diabétiques et surtout sur l'usage qu'en font souvent les médecins en le prescrivant à des patients non diabétiques. Pourtant, encore une fois, personne parmi les pouvoirs publics ne s'alarme et le Mediator continue tranquillement sa route dans les rayons des pharmacies. Enfin, pas tant que ça, car en réalité, le médicament de laboratoire Servier a sans le savoir trouvé sa bête noire. Cette personne, c'est Irène Frachon, médecin pneumologue. C'est en lisant un article sur le Mediator dans Prescrire qu'elle va recouper l'information avec des patients atteints de pathologies pulmonaires et en particulier d'une maladie très rare, l'HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. Elle en arrive à un constat étonnant. À une très grande majorité, les patients qu'elle rencontre ont tous consommé de l'isoméride et ou du Mediator. Pourrait-il donc y avoir un lien? Alors, autour de la valvulopathie, elle mène avec le docteur Grégoire Le Gall du Centre d'investigation clinique de Brest des recherches complémentaires. Et voici les conclusions que donne le docteur Le Gall.
On a repris tous les cas de valvulopathie cardiaque du CHU de Brest et on a commencé par faire un tri entre ceux que l'on comprenait parce qu'il y a beaucoup de causes d'insuffisance cardiaque. Donc celles-là, on les a mis de côté et on s'est intéressé aux patients pour lesquels on n'avait vraiment aucune raison évidente pour qu'ils développent une insuffisance valvulaire. Et puis on est parti interroger tout ce monde-là en demandant qui avait pris du Mediator parmi les, ce qu'on appelle les cas et parmi les autres patients avec cause connue qu'on appelle les témoins. Ensuite, on compare le pourcentage de patients qui avaient pris du Mediator dans les deux groupes. Et donc 70% des patients avec valvulopathie inexpliquée avaient pris du Mediator, contre seulement 6% des patients avec une valvulopathie expliquée. Pour être très honnête, la première chose qu'on s'est dit, personne ne va jamais nous croire parce que c'est tellement énorme.
Les laboratoires Servier démentent formellement ces attaques. Pourtant, comme le montre ici Irène Frachon, sur deux photos tirées d'autopsie, les atteintes cardiaques liées à ce médicament se distinguent nettement.
L'autopsie d'un cœur normal, où vous voyez des cordages qui retiennent les valves de la valve mitrale. Ces cordages sont tout fins, comme des haubans. Et là, vous voyez une patiente qui est décédée d'insuffisance cardiaque liée à cette valvulopathie. Et vous voyez que ces cordages sont monstrueusement déformés, très épaissis et recouverts d'une substance blanchâtre. Le fonctionnement de la valve est complètement perturbé. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure.
Et ça, c'est forcément lié à la prise de Mediator.
C'est forcément lié à la prise d'un médicament toxique avec ce mécanisme de toxicité. C'est parfaitement décrit dans la littérature scientifique.
Nous sommes à l'été 2009. Après avoir bataillé pendant de nombreux mois devant les commissions de l'AFSAPS, le docteur Irène Frachon obtient finalement le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Mediator. En novembre de la même année, le médicament quitte donc les pharmacies. Une décision salutaire, mais bien trop tardive, car il a gagné au minimum 12 ans, oui, 12 années, pendant lesquelles des centaines de milliers de patients ont continué de prendre un médicament toxique. Avec ce retrait qui intervient dans la plus grande discrétion, Servier pense encore une fois avoir réussi à ruser le système et à dissiper tout scandale. Raté. Un an plus tard, en octobre 2010, l'affaire du Mediator rebondit pour devenir le scandale pharmaceutique que nous connaissons au moment où l'étude de la Caisse nationale d'assurance maladie fuite dans la presse et provoque un branle-bas de combat des responsables politiques, ministre de la Santé en tête. Tout le monde cherche à savoir ce qui s'est passé tout en ayant déjà à l'esprit qu'il n'y a pas que les laboratoires Servier qui ont fauté. Le rapport de l'IGAS, le 15 janvier 2011, le confirmera. La faute incombe à Servier, mais aussi à notre système de pharmacovigilance, qui n'a pas été vigilant, donc qui n'a pas fonctionné. Conséquence directe de cette affaire, en 2012, dans le cadre de la réforme du médicament, l'AFSAPS décrédibilisé et remplacé par l'ANSM, Agence Nationale de Sûreté du Médicament. Depuis, l'affaire du Mediator est entrée de plein pied dans une bataille judiciaire de longue haleine dans laquelle les milliers de victimes demandent désormais que justice et dédommagement leur soient rendus pour le préjudice qu'elles subissent. Et malgré le décès de Jacques Servier, en avril 2014, le dossier n'est pas clos.
Affaire sensible,
Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le scandale du Mediator avec deux invités. D'abord ici présente dans ce studio de France Inter, la journaliste Clotilde Cadu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire Marianne, spécialiste des questions de santé. Vous venez de sortir, il est sorti au mois de janvier, hein, un passionnant ouvrage intitulé « Effets indésirables, victimes des médicaments » aux éditions Hugo et compagnie. Et puis avec nous, en duplex, dans les studios de France Bleu à Brest, Irène Frachon, dont nous avons parlé dans ce récit, pneumologue, figure de proue du combat contre le Mediator. Bonjour Irène Frachon.
Bonjour.
Vous m'entendez bien, c'est parfait. Ben tiens, puisque vous m'entendez bien, je vais vous poser la première question, celle qui nous saute à la figure, si je puis dire. Comment est-ce possible qu'un labo soit capable de tromper le système de santé de cette façon, alors qu'on a vécu d'autres scandales sanitaires? Bon, d'abord, ça veut dire qu'on n'en a pas retiré les leçons, mais comment est-ce possible?
Alors, j'ai une réponse qui tient en deux mots, impunité, corruption.
Bien, mais encore.
Alors, impunité, parce que c'est un laboratoire qui a pu, par exemple, être responsable d'un premier scandale immense qui a été celui de l'isoméride, premier coupe-fin de servier retiré en 97, qui a donné lieu aux États-Unis à des milliards de dollars d'indemnisation. Et en France, rien. L'omerta, le silence et surtout l'impunité qui permet la récidive. Alors, pourquoi cette impunité? Tout simplement parce que les liens et l'entrisme, l'influence du laboratoire Servier, notamment au sein des institutions, que ce soit politique, de la réglementation du médicament et malheureusement aussi du monde médical, était suffisamment puissant pour que un tel premier scandale soit totalement étouffé.
Alors, vous parlez de corruption, je me tourne vers vous, hein, Clotilde Cadu. Jacques Servier a-t-il essayé de truquer la procédure en proposant de l'argent pour que certaines victimes retirent leur plainte ou en faisant du lobbying autour d'un rapport sénatorial l'incriminant? Est-ce que c'est allé jusque-là? Parce qu'on l'a dit.
On sait qu'il y a eu des transactions à l'amiable entre des victimes et le laboratoire Servier. Quelques-unes ont été acceptées, puisqu'il faut savoir que les personnes sont en situation de grande vulnérabilité. Elles sont malades, elles peuvent plus travailler, elles ont peu de revenus. Donc effectivement, elles peuvent être tentées d'accepter un marché qui va leur permettre d'être indemnisées tout de suite, puisque le procès, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va se tenir et quand est-ce qu'elles seront indemnisées. Quant au rapport sénatorial, effectivement, à l'issue du scandale du Mediator, à la fois l'Assemblée nationale puis le Sénat se sont penchés sur ce qui avait pu se passer et il semblerait que la personne en charge, la rapporteuse, ait fait relire certains passages à des connaissances chez Servier.
Irène Frachon, quand on parle de corruption, on peut parler de ça éventuellement, peut-être d'autres éléments qui vous permettent de dire corruption.
Oui, alors vous me posez des questions effectivement sur des phénomènes de corruption et de trafic d'influence. Nous sommes en 2016, le drame a éclaté en 2010 et c'est un des points absolument terribles de cette affaire-là, c'est que tout ceci encore aujourd'hui n'a pas été jugé. Il y a plus de 23 personnes, 25, je sais plus, 27 personnes physiques ou morales qui ont été mises en examen à l'issue d'une enquête pénale qui a duré plus de 3 ans, d'une instruction qui a été menée de manière semble-t-il, nous dit-on, exemplaire, mais à ce jour sans aucun résultat, sauf que on sait que de nombreuses personnalités, experts, professeurs de médecine, professeurs de pharmacologie sont mis en examen pour des faits effectivement de prise illégale d'intérêt et de trafic d'influence, et certains même pour les chefs de corruption, ce qui est exceptionnel.
Irène Frachon, on l'a raconté dans le récit, vous avez eu la puce à l'oreille, je crois, en lisant un article du magazine Prescrire, hein, c'est bien cela.
Absolument.
Et quelle était votre action immédiate plus précisément que ce qu'on a raconté, puisque vous êtes là avec nous, vous pouvez nous le dire.
Oui, mais il se trouve que j'étais pas de bol pour servir la bonne personne à la bonne place, puisque je prenais en charge, depuis toujours, c'est ma spécialité, des patients qui souffrent d'une maladie très rare, pulmonaire, qui s'appelle l'HTAP, et que j'avais été témoin, et je viens de vous en parler, d'un premier scandale sanitaire étouffé, qui était le scandale de l'isoméride. L'isoméride des laboratoires Servier déclenchait des HTAP mortels chez des jeunes femmes qui en avaient pris pour perdre quelques kilos. Et donc, à mon grand soulagement, l'isoméride a été interdit en 97. Et 10 ans plus tard, en 2007, je lis d'une part dans la revue Prescrire qu'il y a un médicament, semble-t-il, de la famille de l'isoméride, sans que j'en sache plus, des laboratoires Servier, vague antidiabétique. Et je, dans mon exercice quotidien, je découvre des femmes qui souffrent de cette HTAP et qui ont été exposées au Mediator. Donc moi, l'enquête, elle commence tout simplement au lit de mes patients.
Alors, Clotilde Cadu, est-ce qu'il y a d'autres, puisque vous avez écrit un livre sur ces médicaments qui s'avèrent dangereux, est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui ont connu comme ça un destin qu'on pourrait rapprocher de celui du Mediator dans les affaires relativement récentes?
Je pense que l'affaire du Mediator, elle est isolée dans le sens où qu'il y ait une telle accumulation de dysfonctionnements, qu'il y ait autant de choses qui puissent dysfonctionner comme ça. Pour moi, c'est du jamais vu. Après, les pratiques, les mauvaises pratiques dont a fait preuve le laboratoire Servier et aussi les agences de régulation, c'est pas spécifique sur le Mediator. On sait que l'ensemble des laboratoires pratiquent un certain lobbyisme. On sait qu'il y a quand même beaucoup de médicaments qui sont mis sur le marché alors que leur efficacité est pas franchement démontrée, ou alors qu'ils apportent rien, voire qu'ils apportent plus d'effets indésirables.
Oui, parce que s'ils sont pas efficaces, ils servent à rien. Mais enfin, au moins, ils sont pas dangereux.
Mais voilà, sauf que s'ils sont à la fois inefficaces et dangereux, là, c'est quand même un risque qui est totalement injustifié. Et c'est les patients qui en paient le prix, qui est quand même très cher à payer, puisque on estime que les victimes du médicament, c'est entre 18 et 20 000 morts par an, et un tiers serait évitable.
Irène Frachon, que pensez-vous des mesures qui ont été prises par le gouvernement, les pouvoirs publics, après l'affaire du Mediator, leur lutte contre les conflits d'intérêts entre médecins et labos, par exemple? Enfin, ça, c'est presque une déclaration d'intention. Bon, réforme de la FSAP, c'est son remplacement par la NSM. Ce sont des mesures qui vous paraissent efficaces, qui peuvent être efficaces?
Alors, je pense que la loi Bertrand qui a émergé de ce drame était une loi ambitieuse et qui, effectivement, répond à un certain nombre de ses manquements. Le problème est que elle a été contrée par des actions lobbyistes très fortes, notamment, bien sûr,
encore,
de la part de l'industrie pharmaceutique, et que les décrets d'application de cette loi n'ont pas été jusqu'au bout de la logique de cette loi, notamment en termes de transparence des liens d'intérêt entre, notamment, le monde médical et le monde de l'industrie pharmaceutique. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste encore une loi qui n'est pas complète, accomplie, puisque la loi santé qui vient d'être votée de Marisol Touraine reprécise certains aspects, notamment sur cette transparence qui était censée être réglée depuis 2011. Donc oui, il y a eu une attention, une réglementation, plus de pouvoir donné aux gendarmes du médicament, qui en fait est apparu totalement désarmé face à la puissance des lobbies pharmaceutiques, qui étaient vraiment finalement complètement sous le contrôle de l'industrie pharmaceutique. Donc des choses ont évolué, les mentalités aussi ont été très ébranlés. Mais je vous dis, en 2016, la loi Bertrand de 2011 n'est pas encore accomplie jusqu'au bout de sa logique.
Mesdames, nous allons écouter l'une des victimes du Mediator, un homme de 73 ans qui a pris ce médicament de 2003 jusqu'à 2009. Notre reporter Anaël Verzo l'a rencontré. Alors lui aussi souffre d'une maladie cardiaque provoquée par le Mediator.
Gérard, vous avez 73 ans.
73 ans, oui.
Et de 2003 à 2009, vous avez avalé des comprimés de Mediator.
Oui, de Mediator, oui, sur ma cardiologue qui m'a donné un traitement pour l'hypertriglycémie, pour diminuer le taux de graisse dans le sang, quoi.
C'est-à-dire pour éviter les maladies cardiovasculaires.
Voilà, exactement. Oui.
Vous avez pris ça, donc?
Pendant 6 ans, de 2003 à 2009. Petit à petit, je m'apercevais que j'avais de plus en plus de mal à monter les escaliers. J'étais essoufflé. J'étais vraiment plus en condition, quoi, par rapport à ce que j'étais avant, quoi. Je faisais le moindre effort, j'avais du mal à récupérer, quoi. Et c'est de là que, quand j'ai appris en 2009 les dégâts que ça avait fait, que j'ai commencé vraiment à être un petit peu en colère, quoi. Donc je me suis adressé à ma cardiologue, qui était trompée autant que moi, puisqu'elle aussi, elle a vu des représentants qui lui ont donné ce médicament, elle avait que ça pour les triglycérides, à cette époque-ci. Elle l'a donné vraiment de bonne foi, quoi.
Depuis, vous avez une fuite de la valve mitrale, donc au niveau du cœur.
Oui, au niveau du cœur, oui, j'ai une valve qui ferme mal, quoi.
C'est-à-dire c'est un dysfonctionnement qui perturbe l'écoulement du sang au niveau du cœur.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui.
Alors vous avez porté plainte contre Servier.
Oui, voilà.
Une plainte au civil et une plainte au pénal.
Oui, je l'ai dit. J'étais au civil et après par la suite au pénal. Quoi.
Votre santé, ça en est où?
Ben écoutez, ça se maintient, ça va. Je peux pas dire que ce soit formidable, mais et puis j'ai maigri quand même de 7-8 kilos. Quoi. Et j'arrive pas à retrouver l'appétit. Quoi. Malgré les bons petits plats que ma femme essaie de me faire. C'est comme ça, c'est la vie maintenant.
Vous êtes un naturel optimiste.
Ben, vaut mieux, oui. Oui. Je vous dis, je pense plus aux autres que moi-même, quoi. Parce que vraiment, quand je vois les dégâts que ça a fait, c'est là que vraiment j'étais écœuré du comportement de Servier, quoi. Ça m'a marqué, quoi. Toute ma vie, moi, j'étais plus ou moins dans mon métier pour sauver les gens, quoi.
Vous étiez pompier.
J'étais pompier de Paris et après, j'étais pompier professionnel à l'Opéra de Paris. Et donc, c'était là pour aider les gens, soigner les gens, quoi. Alors, quand on voit qu'il y a des gens pour prendre de l'argent, qui empoisonnent les autres, ça, c'est un peu ce qui m'a contrarié aussi.
Et Gérard, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Vous avez un jardin, je crois?
Oui, j'ai un petit jardin au bord de la Marne, quoi. Puis j'ai des voisins jardiniers, plus âgés que moi d'ailleurs, qui me donnent un coup de main. C'est ça qui est triste, quoi. Je suis censé être le plus jeune et je fatigue vite quand même. Je fatigue beaucoup plus vite qu'avant. J'étais tellement actif avant, je vois que c'est descendu très très vite, quoi. Là où j'en suis. Ben maintenant, je vis, quoi, puis j'espère que, encore longtemps, je vais m'accrocher. J'essaie de profiter de mes dernières années, quoi. Hein? Plus possible.
Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Clotilde Caduc, qu'est-ce que vous inspire ce que vous venez d'entendre?
C'est une vie brisée. Gérard et des centaines, des milliers d'autres personnes. Gérard, il a de la chance vraiment entre guillemets parce que il est toujours vivant et puis il arrive à s'en sortir. Il est entouré. Il y a d'autres personnes pour qui c'est vraiment vraiment compliqué et elles se retrouvent. C'est la double peine. Non seulement elles sont malades et elles sont laissées pour compte.
Irène Frachon. Je ne sais pas ce que vous inspire également ce témoignage. Alors, le témoin dit quelque chose d'important. Il dit, ben oui, mon médecin aussi a été trompé. Effectivement, les médecins aussi ont été trompés. Comment peuvent-ils résister face à un système comme celui-là?
Alors, avant de parler des prescripteurs, je voudrais reparler de Gérard et de son témoignage, bien sûr, parce qu'il suscite en moi, comme vous l'imaginez, du chagrin, mais aussi de la colère et surtout de la révolte. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis 5 ans, un autre immense scandale a émergé à l'issue de ces révélations sur le Mediator. C'est l'impossibilité et la faiblesse de nos institutions pour venir au secours de ces gens qui ont été empoisonnés sciemment par un laboratoire et avec l'aval des autorités de santé, pour lequel l'État d'ailleurs a déjà été condamné. Aujourd'hui, si vous voulez, on laisse un laboratoire sans foi ni loi, le laboratoire Servier, continuer à faire sa loi sur le processus d'indemnisation, à obstruer totalement la justice au niveau pénal et à malmener et maltraiter ces gens qui vivent un deuxième calvaire jusqu'à aujourd'hui inclus. C'est-à-dire que les laboratoires Servier empêchent, gênent, bloquent, tourmentent, en dépit de toutes leurs protestations et de leurs promesses d'indemnisation, toute prise en charge humaine, efficace, de la détresse de ces gens. Donc, les Gérard, il y en a des milliers, des dizaines de milliers aujourd'hui qui se débattent. Il y en a qui sont, et comme le rappelle avec cette générosité magnifique Gérard, des gens qui ont eu des opérations à cœur ouvert. On a entendu Patricia tout à l'heure. Je pense que Patricia n'a pas dû être indemnisée ou misérablement, compte tenu de la façon dont c'est reçu. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, je pousse vraiment un cri d'alarme et envers les pouvoirs publics pour que l'on puisse enfin efficacement tenir tête à un laboratoire qui est un laboratoire gangster et qui ne se prive toujours pas aujourd'hui de maltraiter ses propres victimes. Donc ça, c'est un commentaire très fort qu'il ne faut absolument pas perdre de vue. Aujourd'hui, l'immense scandale du Mediator, malgré la mise en place d'un processus d'indemnisation pour lequel l'ONIAM, l'Office National d'Indemnisation, se débat face aux hordes d'avocats de Servier, où les procédures civiles sont généralement violemment enterrées, où seuls à moins de 25% des affaires ont donné lieu à une transaction, etc., etc., etc. Il y a vraiment un cri d'alarme sur l'état de ces victimes qui sont aujourd'hui absolument épuisées, désespérées pour celles qui ont survécu. Alors ensuite, on va reparler des prescripteurs. Les prescripteurs, très clairement, et ça, ça a toujours un peu étonné tout le monde, ma prise de position, mais j'en ai les preuves, vous savez, il faut savoir sur les documents. Les prescripteurs ont été trompés jusqu'au bout par le laboratoire Servier. J'ai des documents dans lesquels des prescripteurs demandent au laboratoire Servier, tiens, mais on entend parler d'HTAP, de valvulopathie, est-ce que par hasard le Mediator ne serait pas dangereux? Ça, c'est en 2009, alors que tout est au rouge, tous les feux et les signaux d'alerte sont au rouge. Et j'ai le courrier du laboratoire Servier qui répond qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y a pas de signal et que la tolérance cardiovasculaire du Mediator est normale. Donc les prescripteurs, ce sont peut-être des gens certainement trop perméables aux arguments des visiteurs médicaux et particulièrement donc du marketing agressif de Servier. Donc ça, c'est un défaut, c'est au mieux une naïveté ou au pire une collusion. Mais ils ne sont pas responsables de la prescription, enfin de la toxicité du Mediator. Alors ils l'ont fait au RMM pour maigrir, souvent pour essayer de faire d'aider leurs patients. Il y avait vraiment... Bon, c'est pas bien, mais on n'est pas dans la faute pénale.
Alors, c'est effectivement le système est à la base, les labos. Clotilde Cadu, est-ce qu'un autre Mediator est possible aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moment on peut pas se dire quand même, voilà, il y a eu plusieurs scandales, il y a eu le Mediator qui a été le scandale des scandales, puisqu'il réunit tous les ingrédients du scandale sanitaire. Est-ce que ça va quand même marquer un coup d'arrêt?
Je crois que ça a vraiment provoqué un séisme. Il y a des choses qui ont été mises en place. Ce que disait Irène Frachon tout à l'heure, la loi Bertrand a quand même est ambitieuse. Il y a encore des choses à améliorer. Voilà, mais ceci dit, des scandales, des affaires, on en aura d'autres, parce que voilà, il y aura toujours des problèmes avec les médicaments. Soit parce que il y a un effet indésirable qui va apparaître comme ça sans qu'on le sache, soit parce qu'un laboratoire aura triché, et il y aura toujours cet autre scandale derrière qui est celui de l'indemnisation des victimes, que ce soit celle du Mediator ou d'autres médicaments qui sont des laissés pour compte et n'ont pas de prise en charge.
Oui, d'ailleurs, quand vous parlez de victimes, pardon, Irène Frachon, quand vous parlez de victimes, c'est le moment ou jamais, sur le nombre de victimes, on a dit 500, puis on a dit non, il y en a probablement moins, c'est quel est le chiffre à retenir.
Sur le Mediator?
Oui.
Sur le Mediator, a priori, on part sur la dernière estimation, me semble-t-il, c'est 2100 décès sur les 33 ans de commercialisation du Mediator, plus toutes les personnes qui seront handicapées par un problème cardiaque.
Bien sûr. Irène Frachon, juste pour confirmer ce chiffre, parce qu'on n'a plus le temps, c'est terminé, de 2100.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est comme les accidents de la route, il y a 10 fois plus d'invalides graves. Dernière chose,
oui,
justement, pour rendre hommage à toutes les victimes d'accidents médicaux et pas seulement, voilà, Distilben, etc. Le Mediator, c'est un cas d'école et qui éclaire un drame immense qui est celui du traitement actuellement en France des victimes d'accidents médicaux, du Distilben à aujourd'hui la Dépakine.
Merci, pardonnez-moi de vous bousculer, Irène Frachon, ce sera le mot de la fin. Merci, mesdames, en tout cas. Au revoir.
Merci.